Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Bon, on parlera pas juste de la COVID. On va aussi parler de pornographie avec Jean-Marc Beausoleil, qui est auteur du livre Pornodyssée, qui est publié aux éditions Somme Toute. C'est disponible depuis la fin août déjà. Jean-Marc Beausoleil qui est là. Bonjour, Monsieur Beausoleil.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Auteur, professeur au Cégep, John Abbott. J'ai envie de vous poser la question, Monsieur Beausoleil. C'était quoi le but d'écrire un livre sur l'industrie de la porno québécoise?
Il y a plusieurs buts. Comme je l'ai déjà dit, j'avais besoin, je pense, de faire un livre qui ferait du bruit. J'avais besoin de faire un livre qui ferait parler. La pornographie, c'est un sujet qui est extrêmement polarisant. Hein. Mm. On est pour, on est contre. Tout le monde a une opinion. Et je me cherchais un sujet de livre parce que j'écris constamment. Ouais. Je veux dire, j'ai déjà écrit sur le jazz, sur Haïti. J'ai écrit sur plusieurs sujets. Donc, je me sentais autorisé d'attaquer un sujet qui peut être plus controversé, parce que je me dis, on peut pas me dire que je pense juste à ça. J'ai déjà écrit des livres sur d'autres choses. Et quand j'ai commencé mes recherches, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était de voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens au Québec qui affichaient leur participation au monde de la pornographie ou à l'industrie de la pornographie, qui se disaient porn star, caméraman, mannequin sexe ou des choses comme ça. Mm. Et ça m'étonnait. C'était nouveau pour moi. J'avais jamais vu ça. Et j'étais curieux de savoir qui étaient ces gens-là. Et j'étais curieux de leur donner la parole. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé les rencontrer en prenant contact avec eux souvent au début, en tout cas avec les réseaux sociaux. Et le livre qu'on lit finalement, ce sont les portraits et les propos de différentes personnes qui travaillent dans l'industrie de la pornographie et qui racontent un peu pourquoi ils sont là.
Ben oui, c'est littéralement votre odyssée dans les coulisses de la porno québécoise. Porno quand même qui est affublé peut-être d'une vision un peu erronée. Vous me corrigerez si je me trompe. Souvent, Monsieur Beausoleil, on pense que la porno ou le porno, parce que ici on dit la porno, mais la vraie affaire c'est le. On pense que la scène pornographique québécoise, c'est très très broche à foin. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce sujet?
Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il semble-t-il qu'il y a des gens, évidemment certaines personnes savaient ça, mais pour moi c'était une grande découverte, c'est qu'on a MindGeek à Montréal et également Entertainment. MindGeek,
oui.
C'est le plus grand distributeur de pornographie Internet au monde. C'est eux qui ont instauré en 2007 la pornographie gratuite continue en ligne accessible tout le temps et en même temps qu'apparaissaient les téléphones multifonctions, les téléphones dits intelligents. Et donc, ça permettait aux gens partout de regarder de la pornographie tout le temps avec un outil qu'ils ont dans leur poche. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas avant dans l'histoire de l'humanité. Si on remonte quelques décennies, quelques générations, les gens n'avaient pas d'image du tout. Et là, tout d'un coup, ils ont une surabondance d'images. Donc, et ça part de la métropole québécoise, ça part de Montréal. Donc, ça me semblait intéressant d'en parler. Et il y a ces broches à fond, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses. Hein. Moi, quand je parle de pornographie, je parle de l'industrie du film pour adultes. Et là, ça peut aller d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui est tout seul chez eux avec son ordinateur et qui diffuse en direct pour un ou des clients. Mm. Ça peut aller de petites compagnies qui ont des vies qui ne durent pas longtemps. Mais on a quand même des compagnies qui sont ici depuis plusieurs années, comme Pegasus, comme AD4X, qui, eux, font un produit local, qui, dans le cas de Pegasus, même, ils exportent aux États-Unis et en France. Et je pense pas qu'ils sont plus broche à foin qu'ailleurs. Là, je pense
mais c'est la perception. Mais je pense qu'en lisant votre livre, on comprend que c'est un milieu quand même, somme toute, assez bien organisé et qu'on a un marché qui, comme dans bien des secteurs d'économie québécoise, qui se distingue. Je veux qu'on parle d'AD4X, parce que vous avez soulevé, c'est une compagnie de production qui quand même a fait parler d'elle pour ses castings sauvages dans les parkings de bars de danseuses, dans les parkings de bars. Même moi, j'ai déjà fait une chronique pour me poser la question à savoir est-ce que c'était vraiment une bonne chose que de faire venir des gens aviner dans une roulotte pour s'adonner à des plaisirs charnels devant la caméra. Moi, personnellement, je me la pose la question, M. Beausoleil, puis je suis pas du tout anti-pornographie. Là, je me suis d'ailleurs prononcée plusieurs fois sur le fait que j'étais très peau porno, que j'en consommais, que j'avais pas de problème avec ça. Mais la question du consentement par rapport à ces fameux castings-là, et là, je parle du vrai choix, là, le vrai consentement, quand même, je me la pose la question. Je suis pas certaine.
OK, on parle là du consentement. Vous parlez du consentement des jeunes femmes qui sont dans le...
Mais même des hommes. Je veux dire, quand t'es dans un bar et que t'as consommé de l'alcool et que tout à coup, tu décides de prendre part à une audition pour faire partie de l'industrie du X, je sais pas si le plein consentement est là, si on mesure absolument bien les conséquences d'avoir son image là pour toujours, même si ça sera peut-être pas diffusé. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, je comprends très bien. OK, là, faut faire attention. Moi, j'ai voulu, en tant qu'écrivain, là, j'ai voulu éviter autant que possible de poser des jugements moraux et de raconter les choses comme elles sont. Et donc, ma prétention, c'est de laisser les gens lire le texte et là, décider par eux-mêmes. Et là, tous les gens à qui j'ai parlé étaient très consentants.
C'est ça, vous l'avez vu, là. Moi, c'est plus ça ma question. Vous avez été témoin, donc.
Là, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux jeunes femmes. J'ai même parlé aux jeunes femmes plusieurs jours après le casting.
Ah, ça, c'est intéressant.
Voir, que si elles étaient, ça veut dire le regrettaient ou quelque chose comme ça. Ouais. Elles étaient parfaitement. Et là, je sais qu'il y a deux positions extrêmes, peut-être, du point de vue féministe. Il y a la position qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps et c'est à elle de décider. Et la position qui dit que la pornographie, c'est tout le temps de la violence sexuelle. Bon, là, si vous pensez que c'est tout le temps de la violence sexuelle, sûrement que les séances de casting un peu sauvages dont je parle dans mon livre, vous aimerez pas ça. Mmh. Mais en même temps, les gens qui sont là sont des adultes et ils ont donné leur consentement. Ils sont là avant d'être avinés. Hein. Ils se rendent sur place pour ça. Ils ont prévu ça des jours d'avance, la plupart du temps.
Fait qu'il y a personne qui se pointe là impulsivement, qui est dans le bar, qui fait « je vais aller faire ça en arrière ». Vous avez pas vu ça, vous?
Non, vraiment pas. D'autant plus que la police est là. La police était là la moitié du temps. Il y avait plusieurs agents de police. Mmh. Là. Personne se lève et se dit tout d'un coup « en tout cas, moi, j'ai pas témoigné de ça, de quelqu'un qui se lève et qui se dit tout d'un coup « tiens, je vais m'essayer » et qui, là, le lendemain, se réveille et tout le monde à son travail lui dit « je ne savais pas que tu avais l'air de ça sans tes vêtements, admettons, quelque chose comme ça. »
Ben, voilà qui me rassure parce que quand j'avais écrit ma chronique sur AD4X, il m'avait contacté. Je pense même que c'était le monteur auquel vous avez parlé dans votre livre qui m'avait invité à venir participer à des auditions. Bon, j'ai refusé, mais pour d'autres raisons que celle du consentement. Puis je veux qu'on continue cette discussion-là sur le consentement, Monsieur Beausoleil, parce que vous avez rencontré des actrices, puis je suis contente que vous m'ouvriez la porte sur peut-être ce que le mouvement féministe en pense selon l'enseigne à laquelle on loge. Vous les avez trouvées comment, ces jeunes femmes-là, épanouies, consentantes, contentes, fières de leur choix?
Oui, chacune vit ça à sa façon, mais celle à qui j'ai parlé et qui évidemment accepte de me parler, hein, parce que j'imagine que une jeune femme très mal à l'aise, qui aurait eu une mauvaise expérience et qui sent mal et qui veut pas en parler, moi je la verrai pas. Et c'est sûr qu'il y a des expériences malheureuses dans le monde de la pornographie. Je cite le cas de August Ames, la jeune canadienne qui, après avoir tourné intensément pendant 3 ans, s'est enlevée la vie. Et elle n'est pas la seule. Je cite d'autres cas. Il y a des tragédies dans le monde de la pornographie. Mais moi je dirais là, quand je parle à Kira Burns ou quand je parle à Sunny Sparks, ces filles-là sont heureuses. Ces jeunes femmes-là sont heureuses de faire ce qu'elles font. Et là, ça pose toute une question sur comment la société est organisée. Parce que les gens les performeurs et les performeuses qu'on voit dans les films-là, c'est rarement des gens de Westmount ou d'Outremont qui ont des parents neurochirurgiens.
Oui, c'est ça. Oui, moi, c'était évoqué dans votre livre, justement, là, des Vandal Vixen, notamment, qui a quand même eu une enfance difficile.
Oui, difficile. Ouais. Et donc, eux, ils choisissent souvent, c'est le cas, la pornographie comme une forme de rébellion. Ils s'opposent à leur position sur l'échelle sociale et ils le font en transformant leur vie sexuelle en spectacle. Ça leur permet souvent de faire un peu de sous, de s'amuser, de se donner une certaine notoriété, de sortir de l'anonymat, de se sentir vivre. Donc, sans oublier le fait que certaines personnes souffrent de leurs expériences dans la pornographie et sans oublier le fait que qu'il y a des tragédies comme celle de Augustine. Mm-hmm. Je pense que c'est important de dire dans la vie d'aujourd'hui, à la quantité de pornographie qui se produit et qui se consomme, que ce n'est pas, c'est pas tous les gens qui font ça ne sont pas stigmatisés à vie. Il y a des gens qui ont une expérience dans l'univers de la pornographie et qui, puis après ça, continuent leur vie ailleurs, là, dans d'autres champs d'activité et qui ne s'en trouvent pas plus mal pour autant, ça existe.
Mais la question des sous, justement, est-ce que c'est très payant?
Ça dépend à quel niveau vous le faites. Il y a Man Steel, par exemple, qui est un jeune homme à qui je parle, qui lui trouve qu'il aimerait ça faire plus d'argent. Et il y a
mais les gars sont moins bien payés que les filles, hein, non, dans ce milieu-là?
Oui. Oui, oui. J'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'il y a une plus grande. Probablement, c'est l'offre et la demande. Là. Peut-être qu'il y a plus de demandes pour des jeunes femmes que de demandes pour les jeunes hommes. Peut-être qu'il y a plus d'hommes qui décident de s'essayer. Et ça dépend parce qu'au niveau, au niveau très élevé, quand ils se rendent à Los Angeles, parce que j'ai quand même deux francophones qui se sont rendus dans les ligues majeures.
Oui, dont une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Savannah Styles.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Eux, rendus là, ils font de l'argent. Puis le gars aussi, il fait de l'argent. Il fait 200 000 piastres par année là à avoir des relations intimes avec des femmes 5 jours par semaine. Lui, il a pas l'air malheureux, en tout cas.
Mais j'espère qu'il pense à l'après. J'espère qu'il fait des économies, M. Beausoleil.
Oui, oui, oui. Il s'est ouvert une boutique de vêtements. Il s'est ouvert un studio d'enregistrement. Il est parfaitement conscient de ça. Il est parfaitement conscient du fait que ça va pas durer pour toujours. Et il a un plan de match en conséquence.
Bon, on a dit plusieurs fois le mot jeune femme, le mot jeunes hommes. Moi, il y a un passage qui m'a rendu très mal à l'aise dans le livre, puis peut-être que ça m'appartient, là, direz-vous. Par rapport à ce culte de la jeunesse, j'ai un peu tiqué sur le passage où vous vantiez le corps de nymphette d'une fille montée sur la scène avec Vandal Vixen dans un bar. Je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise parce que ça nous présentait un peu le corps de cette fille-là comme de la chair fraîche, comme un corps pur, pas usé par la vie. Comme si on jetait les femmes après usage, ça m'a beaucoup dérangé ce passage-là.
Bon, ben écoutez, je suis désolé si je vous ai dérangé. Sachez que ma blonde, elle a mon âge.
Ah, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ce qu'on dit du corps des femmes dans l'industrie de la porno. Je suis pas sûre que ça dérange juste moi. Là, je pense qu'il y a bien des gens en ce moment qui nous écoutent, qui disent, écoutez, quand c'est rendu que les gens se branlent devant des corps de petites filles de 18, 19, 20 ans, des messieurs de 65 ans, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose de glauque là-dedans, on peut pas, tu sais, dire le contraire.
Okay, oui, et en même temps, on peut penser qu'il y a 25% des femmes qui regardent la pornographie et qu'elles regardent pas des vieux monsieur de 65 ans non plus.
Là, je vous corrige, je pense qu'il y a 100% des femmes qui regardent la pornographie, monsieur Beausoleil, le reste veut juste pas le dire.
Bon, ben vous le dites que vous regardez de la pornographie, est-ce que vous regardez de la pornographie gériatrique?
Ben, c'est quoi être une personne gériatrique? Je veux dire, je regarde pas des gars de 18 ans, ça c'est sûr.
Bon, ben OK. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut faire attention aux jeunesses, faut faire attention à...
Ben, comment on les représente, ces jeunes filles-là aussi? Souvent, elles sont habillées en écolière. C'est ce que ça évoque aussi, là, je pense, qui parfois est un peu dérangeant.
OK, mais je veux dire, c'est ça que j'ai vu, c'est ça qui est arrivé. Puis là, je veux dire, la salle était pleine de gens qui hurlaient leur bonheur, là, comme si c'était un but à la finale de la Coupe Stanley. Et donc, moi, je l'ai raconté. Mais oui, c'est vrai que c'est sûr que si c'est juste ça qu'on a dans notre vie, ça va mal pour nous. Mais en même temps... Je dirais que ça dépend de la personne. Si une personne développe une relation malsaine avec une idée d'un corps parfait et tout ça, que ça la rend malheureuse et que ça rend les gens autour d'elle malheureuses, ça, c'est vraiment pas bon. Si un homme ou une femme regarde une vidéo une fois ou une fois de temps en temps, je pense pas que ce soit si dramatique, mais en même temps, ces valeurs-là sont véhiculées par la publicité, ces valeurs-là sont véhiculées par les émissions de télévision, par les films hollywoodiens.
Ouais.
Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent mal à l'aise.
Puis on les questionne là aussi, M. Beausoleil, je pense qu'à un moment donné. Mais vous avez parlé à un psychologue quand même qui traite les dépendances à la pornographie. Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ben lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont le consulter pour un malaise par rapport à leur consommation de pornographie.
Ouais.
Il y a un nombre croissant d'hommes qui estiment qu'ils ont une dépendance à la pornographie, que cette dépendance-là se manifestent par un malaise. Hein, quand tout d'un coup, ils ne se sentent pas bien par rapport à ce qu'ils font, c'est parce qu'il y a un problème. Si on ne se sent pas bien, il y a un problème. Et il y a aussi des femmes, des épouses d'hommes qui ont ce genre de problème. Les épouses vont voir qu'est-ce que je peux faire et tout ça.
Pas pour leur propre consommation à elles, pour celle de leur conjoint. C'est ça que je comprends.
Pour celle de leur conjoint, okay, exactement. Okay. Et en fait, les études universitaires assez récentes là, qui ont été publiées juste avant la sortie du livre, donc qui datent du début de 2020, disent qu'il y a jusqu'à 8 à 10% de la population qui éprouve un malaise par rapport à sa consommation de pornographie. Donc, il y a une personne sur 10, quand même, c'est beaucoup, qui se sent pas bien par rapport à sa consommation de pornographie. Et donc, il y a une partie de la population qui, oui, en effet, souffre à cause de ça. Moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir en parler, justement, comme vous le dites. Moi, ça m'arrive d'en regarder de la pornographie, puis je peux trouver ça excitant parfois, moi aussi. Et ce que vous dites, finalement, c'est très... Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Il faut faire attention à quelle pornographie on le regarde et comment elle est produite et qui elle met en scène et quels sont les fantasmes qu'on laisse nous allumer. Hein, faut pas alimenter.
Faut réfléchir. Ben oui, il faut réfléchir. Oui, puis je pense que ça. La porn est en train de se transformer aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent, si on veut, une porn éthique. Et peut-être que l'industrie québécoise est sensible à cette question-là. Qu'en sais-je? Mais bref, ça s'appelle Porn Odyssée. C'est fort intéressant, pour vrai. J'ai eu beaucoup de plaisir, et pas dans le mauvais sens, à lire ce livre-là. On apprend vraiment beaucoup de choses. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on parle à toutes sortes d'acteurs de l'industrie, même à des comptables. C'est très, très intéressant, notamment le segment, justement, sur MindGeek, et là, on a plus de temps pour s'y attarder, mais vraiment, c'est un livre à lire si vous vous intéressez à l'univers du porno, mais aussi peut-être si vous avez quelques préjugés, ça pourra vous servir à les déboulonner. Jean-Marc Beausoleil, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est publié aux éditions Somme Toute et il y a une magnifique préface aussi de Mélodie Nelson. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Beausoleil.